Bien, s'il vous plaît, nous allons reprendre. Alors, il nous reste cette fois une année 1987, qui va être toujours aussi confuse que l'année précédente. Dans le cours de cette heure-ci, nous n'aurons pas un morceau de choix comme les Rangate, qui permettait de nous changer un peu de la cascade de diplomatie, d'incidents et d'attentats et de raids aériens qui font notre ordinaire, mais malheureusement, on vous est soumis pour cette heure-ci, avant le morceau de choix de la semaine prochaine, qui sera la première intifada, à notre routine habituelle. J'en suis désolé pour ceux qui trouvent que c'est ennuyeux, cette succession d'événements remplis de bruit et de fureur. Donc, nous allons d'abord examiner ce que j'ai appelé la dernière option jordanienne. En Israël, le premier ministre du gouvernement d'Union nationale, Yitzhak Shamir, marque clairement que la rétrocession du Sinaï constitue le seul retrait des territoires occupés. Il s'en tient à la stricte application d'une autonomie des personnes pour les Palestiniens, comme l'explique à des émigrés soviétiques le 23 janvier 1987, début de citation, il n'y aura plus aucun partage des rêves d'Israël qui est la patrie de tous les Juifs. Tout Juif doit comprendre cette vérité d'évidence qu'est rêves d'Israël dans sa globalité et la patrie du peuple juif, et les Juifs peuvent s'installer selon leur volonté dans toutes les parties de ce pays. Il est inconcevable que des Juifs d'Eretz Israël ou des Juifs qui vivent en dehors d'Eretz Israël acceptent qu'un quelconque parti d'Eretz Israël soit, avec notre accord, Judenrein, vide de Juifs selon la terminologie nazie. Il est inimaginable qu'à la suite de négociations avec les Arabes, les Juifs soient autorisés à vivre à Tel Aviv, mais pas à Gaza, à Jérusalem, mais pas à Hébron. Nous n'accepterons pas que notre pays soit à ce point étroit qu'il puisse être traversé en certains endroits en moins d'une heure. Alors vous noterez la confusion entre la judaïté et l'État d'Israël, qui est une confusion permanente dans le discours politique israélien. Shamir prend aussi publiquement position contre toute conférence internationale, tout en marquant que la question n'a pas été tranchée au sein du gouvernement d'Union nationale en Israël. En 1986, Schultz a désigné un nouvel émissaire américain au Proche-Orient chargé de faire avancer le dialogue secret entre la Jordanie et Israël. C'est Walter Cluverius, je ne l'ai pas noté ici, ce n'est pas grave. Il ne va pas rester longtemps. Tout tourne sur les compétences d'une éventuelle conférence internationale et du contenu territorial de la paix. Les mirifiques projets de Pérez d'une coopération économique régionale sont reçus avec politesse. En revanche, Pérez refuse d'accepter la politique de l'immobilisme de Shamir, tandis que le roi Hussein s'inquiète de l'érosion continue de ses positions en Cisjordanie. Cela conduit à une nouvelle rencontre secrète entre les deux hommes à Londres, le 11 avril 1987. Pérez s'y rend avec le directeur politique de son ministère, Yossi Beilin, et le directeur adjoint du Mossad, Ephraim Halevi. Ce sont des hommes clés qu'on va retrouver pendant la décennie qui suit dans tous les contacts avec la Jordanie. Shamir, persuadé que cela ne donnera rien, a donné son accord. L'entretien se déroule dans une ambiance détendue. Le roi évoque la constitution d'une délégation jordano-palestinienne, les Israéliens ayant un droit de veto sur la composition de la partie palestinienne. On pourrait ainsi contourner l'OLP, qui, en cas de succès, se trouverait marginalisé. Le principe d'une conférence internationale n'ayant pas de pouvoir coercitif est acquis. La nouvelle politique soviétique de Gorbatchev paraît aller dans ce sens. La participation à la conférence est conditionnée à l'acceptation des résolutions 242 et 338 et à la renonciation à la violence et au terrorisme. Ensuite, on passerait à des discussions bilatérales entre délégations arabes et israéliennes. pour la première fois un document conjoint daté, mais non signé, et rédigé. À son retour en Israël, Peres lit le document à Shamir, mais refuse de lui en laisser une copie, de peur de voir une fuite dans la presse venue de l'entourage du Premier ministre. C'est ça, c'est le problème permanent en Israël. En dehors du domaine du nucléaire militaire, tout ce qui se dit, se discute au gouvernement israélien dans la semaine qui suit, dans la presse. J'ai discuté avec des anciens ambassadeurs qui disaient « Israël, c'est un poste merveilleux, on sait tout. Il suffit d'ouvrir les journaux. » Dans son esprit fertile, Peres voit qu'il faudrait que la proposition apparaisse comme émanant des États-Unis afin de la rendre plus acceptable par les opinions publiques. Dans ce but, il a immédiatement envoyé Beilin auprès de Schulz. Mais le secrétaire d'État est très monté contre Peres à cause du rôle de Peres dans l'affaire Pollard, rappelez cet espionnage israélien aux États-Unis, et surtout dans le rôle de Peres dans l'Iran Gate. Schulz a aussi l'impression qu'on le charge de forcer la main à Shamir, dont l'hostilité au projet de conférence est connue de tous. Néanmoins, le secrétaire d'État fait savoir à Shamir qu'il est prêt à se rendre au Moyen-Orient pour faire avancer le processus de paix, et le Premier ministre lui communique ses fortes réticences, puis le lui envoie à Reims, sans prévenir Peres, qui fait comprendre aux Américains que le Likoud s'oppose résolument au projet. Le tout occupe le reste du mois d'avril. Schulz refuse tout ce qui peut apparaître comme une ingérence dans les affaires israéliennes. C'est aux intéressés de décider ce qu'ils veulent. Le 6 mai, Peres communique au gouvernement le contenu du projet. Tous les ministres de Likoud marquent leur opposition résolue. C'est la fin de l'initiative. Hussein considère que Peres a sous-estimé la force de l'opposition dans son pays et surestimé sa capacité d'influencer la politique américaine. Peres a perdu toute crédibilité auprès du monarque qui refuse toute rencontre supplémentaire avec le ministre israélien des Affaires étrangères. Mais Shamir, de son côté, obtient une entrevue à Londres avec le roi Hussein le 18 juillet 1987, cette fois grâce à l'entremise des Américains. Ils veulent persuader de maintenir le statu quo. Ce qui veut dire, en clair, Shamir refuse de soutenir la position d'Ariel Sharon, qui est de détruire la monarchie jordanienne pour la remplacer par un État palestinien. Et de propose aussi de mener une action commune contre l'ONP. Le monarque a accepté de rencontrer Shamir pour voir s'il était possible d'arriver à un accord avec la droite israélienne. L'atmosphère est très tendue et le roi en tire la conclusion que l'on n'a rien à attendre du Likoud. Shamir en fait l'analyse inverse et explique aux Américains que la Jordanie est prête à coopérer dans l'application des accords de Camp David. Le roi dément cette vision des choses et refuse tout nouveau contact avec les représentants de Shamir. L'entourage de Peres fait porter sur Schulz la responsabilité de l'échec d'une occasion historique, mais comme la suite des événements le montrera, ce n'est pas à prendre en compte l'immobilisme de Shamir et surtout le fait que l'accord ne concernait que les questions de procédure, sans aborder la question de fond, c'est-à-dire celle du territoire. Parallèlement, Yasser Arafat reprend la main sur la scène palestinienne. Faute d'avoir pu prendre le contrôle de l'ONP, Damas a tenté de faire de la coalition du FSNP, le Front de Salut National Palestinien, une seconde à l'ONP. C'est la ligne des instruments de la politique syrienne que sont les dissidents du Fatah. Le FPLP-CG, donc le Front Populaire de Libération de la Palestine Commandement Général, qui est une organisation pro-syrienne, et la SARIKA, qui est donc l'organisation bassiste palestinienne. Mais George Habash considère qu'il faut utiliser la coalition pour infléchir la ligne d'Arafat représentée par le deuxième CNP et l'accord d'Amman, ainsi que le rapprochement avec l'Égypte. La guerre des camps a déconsidéré les pro-syriens, tandis que la rupture entre l'ONP et la Jordanie permet la réouverture du dialogue entre le Fatah et l'aile gauche du mouvement national, ceci facilité par la médiation de l'Algérie et de la Libye, ennemis mortels du mouvement Amal depuis la disparition de l'imam Moussa Sadr. Après de longues tractations, un accord est conclu sur la base de dénonciation de l'accord d'Amman et de la définition des rapports avec l'Égypte sur les bases des décisions du CNP. Arafat est donc en position. Donc là, c'est Arafat et Ben Jedid. Pour convoquer un 18e CNP à Alger, Congrès national palestinien. La session commence le 20 avril en présence des délégations de la gauche palestinienne. Abou Nida a même tenté d'être représenté, mais les négociations ont échoué. En revanche, Abou El Abbas est présent à la grande colère des États-Unis qui demande son extradition pour l'affaire de l'Aquilée Lauro. La réunification de l'OLP se fait au détriment de la Jordanie, de la Syrie et accessoirement de l'Égypte. L'autonomie de décision palestinienne est réaffirmée, l'accord d'Amman est abrogé, les résolutions adoptées le 25 avril 1987 marquent, je cite, « Le SNP proclame 1. Son attachement aux droits nationaux inaliénables du peuple arabe palestinien au retour à l'autodétermination » et l'établissement de l'État indépendant sur le sol national palestinien avec Jérusalem comme capitale, ainsi que son engagement envers le programme politique de l'OLP qui vise à réaliser ses droits. 2. Son attachement à l'OLP en tant que représentant unique et légitime de notre peuple et son rejet de toute délégation de pouvoir, mandat ou partage de la représentation palestinienne ainsi que de tout substitut à l'OLP. Fin de citation. La résolution 242 est rejetée comme base de négociation dans la mesure où elle ne traite ce problème que comme une simple question de réfugiés, ignorant les droits nationaux inaliénables du peuple palestinien. Il en est de même pour Camp David, pour le plan Reagan, pour l'autonomie administrative et le condominium jordano-israélien. En revanche, la conférence internationale où l'OLP serait admise sur un plan d'égalité avec les autres partis et qui serait investie des pleins pouvoirs est considérée comme la solution. On appelle à de meilleures relations avec la Syrie. Alors, Moubarak prend très mal la condamnation de Camp David, exerce différentes sanctions envers les Palestiniens résidant en Égypte. Les bureaux de l'OLP sont fermés. Moubarak n'admet pas la tentative de conciliation avec Damas qui pourrait conduire à un nouvel isolement de l'Égypte. Il a fait de son rôle d'intermédiaire avec l'OLP l'un des axes essentiels de sa politique, permettant de réintégrer l'Égypte dans le jeu politique arabe et de lui donner un rôle essentiel dans la conclusion de la question de Palestine. Le rejet par Assad des ouvertures palestiniennes rassure rapidement le chef d'État égyptien. Le 26 avril, Arafat est réélu à la direction du comité exécutif de l'OLP et sa priorité est de tenter de lever les malentendus avec l'Égypte. L'une des conséquences du 18e CNP et de favoriser le rapprochement entre la Jordanie et la Syrie. Assad considère que le roi Hussein se trouve dans l'impossibilité de traiter avec Israël en raison de l'intransigeance du Likoud, et le monarque en profite pour travailler à une réconciliation entre la Syrie et l'Irak, orientation majeure de sa politique. La clarification politique en cours fait de la réunion d'un nouveau sommet arabe l'enjeu de la politique régionale. Il permettrait de définir l'état exact des rapports de force. Comme la Syrie a aussi accepté le principe d'une conférence internationale, un certain consensus arabe existe sur le sujet. C'est Israël, par le refus d'une représentation de l'OLP pour les travaillistes et de la conférence elle-même par le Likoud, qui apparaît alors comme le principal obstacle. Au Liban, la guerre des camps se poursuit à basse intensité. Sur le terrain, les forces syriennes se posent en médiateur, tout en entretenant un difficile équilibre entre Amal et les dissidents du Fatah. Le Hezbollah mène sa propre guérilla contre la zone occupée par l'armée israélienne et l'ALS. Les Israéliens lancent périodiquement des raids de représailles visant surtout les camps palestiniens. Le gouvernement libanais est dirigé par Rachid Karamé, ne se réunit même plus, même si certaines administrations continuent encore de fonctionner. Damas apparaît plus que jamais comme l'arbitre de la situation politique, mais le régime syrien est prisonnier de ses alliances contradictoires. Amin Gemayel tente un rapprochement avec les chiites, concrétisé par une réunion le 21 mai 1987 du Parlement libanais, qui, à l'unanimité des députés présents, abroge l'accord du Caire et tous les accords connexes régissant la présence palestinienne au Liban. Donc là, on a alliance chrétienne-chiite contre les Palestiniens. C'est logique, hein ? L'OLP refuse de reconnaître ces décisions unilatérales et appelle à des négociations avec le gouvernement libanais, mais encore faudrait-il que ce dernier puisse se réunir. Le 1er juin, Rachid Karamé est assassiné, une bombe ayant été placée sous son siège dans l'hélicoptère militaire qu'il transportait. C'était du travail de professionnel, juste le Premier ministre a été tué. On accuse pour le principe Israël d'avoir organisé l'attentat, qui est manifestement le fait d'une partie libanaise. L'opération ayant nécessité des complicités dans l'armée. Selim Ross est désigné par Amin Gemayel comme Premier ministre chargé des affaires courantes. Faute de pouvoir imposer sa solution politique, Damas travaille alors à construire une coalition politique large regroupant l'ensemble de ses alliés politiques libanais dans la future perspective, dans la perspective de la future élection présidentielle libanaise prévue pour l'été 1988. À la suite de l'enlèvement d'un journaliste américain le 17 juin, les relations se tendent dangereusement entre le Hezbollah et les Syriens qui n'admettent pas que l'on bafoue leur autorité. Depuis leur retour à Beyrouth Ouest, les Syriens se posent en garant de l'ordre public et entament une épreuve de force avec l'organisation chiite. Pour mémoire, si j'ose dire, le 7 août 1987, le vétéran de la politique libanaise Camille Chamoun meurt d'une crise cardiaque à 87 ans. La presse israélienne rappelle ses diverses collaborations avec l'État hébreu. La brève unité nationale des funérailles ne règle pas la crise politique libanaise. La valeur de la monnaie nationale connaît une suite d'effondrements successifs au grand drame de la pauvre population. Mais là, il faut qu'on fasse un peu, non pas une pause pour que vous sortiez, mais une pause dans le déroulement pour reprendre les changements de la configuration politique régionale et internationale. L'Union soviétique de Gorbatchev semble pouvoir mener une diplomatie active et fructueuse, contrastant avec des États-Unis empêtrés dans l'Iran Gate et dans le blocage du processus de paix. Moscou a favorisé la réunification palestinienne autour d'Arafat, donné des conseils de modération à la Syrie de Hafez al-Assad, faisant comprendre que le projet de parité militaire stratégique entre Israël et la Syrie est hors de portée et qu'il faut mieux se tourner vers une solution politique. Moscou a repris le dialogue avec l'Égypte, se montrant conciliant sur la question de la dette militaire égyptienne. Des ouvertures sont pratiquées à destination d'Israël et on laisse entendre que la question de la liberté d'émigration des Juifs soviétiques pourrait être traitée de façon favorable. De fait, les visas de sortie accordés selon des critères relativement stricts sont de l'ordre de 500 à 1000 par mois. Le problème pour Moscou est de savoir qui, entre Peres et Shamir, exprime réellement la politique israélienne. Le premier affirme que la participation soviétique à la conférence internationale est conditionnée à la reprise des relations diplomatiques et la liberté d'émigration des Juifs soviétiques. Le second dit qu'il n'y aura pas de conférence internationale. L'atmosphère a nettement changé entre les États-Unis et l'Union soviétique. On n'est plus dans l'ambiance de confrontation de la guerre froide, mais plutôt dans une phase de compétition active qui comprend aussi des collaborations ponctuelles pour éviter que des crises régionales dégénèrent en affrontements. Des discussions sur le Moyen-Orient au niveau des diplomates peuvent ainsi reprendre à Genève. Néanmoins, le but majeur de la politique américaine est toujours l'élimination de l'influence soviétique dans la région. Dans le Golfe, l'Irak a repris ses attaques contre le système pétrolier iranien. Téhéran, en représailles, menace la liberté de circulation du pétrole des pays qui soutiennent l'Irak. Le Koweït, menacé, a fait appel aux États-Unis qui n'ont pas bougé. Moscou a alors accepté de fournir des pétroliers à l'Émirat. Washington, pour défendre sa chasse gardée, doit se précipiter de faire passer les pétroliers koweïtiens sous pavillon américain. En outre, les États-Unis s'engagent à donner une protection militaire à ces bâtiments devenus officiellement américains. Ainsi, pour faire face à la concurrence soviétique et apaiser ses alliés arabes outragés par les Rangate, Washington s'engage militairement dans le Golfe. On sent aussi le désir de sanctionner le régime de Téhéran pour son comportement. Après qu'un pétrolier koweïto-américain ait été victime d'une mine, la France et la Grande-Bretagne envoient des bâtiments de guerre participer au déminage des eaux du Golfe. L'Iran paraît complètement isolé sur le plan international, les grandes puissances paraissant d'accord pour favoriser la fin de la guerre Irak-Iran sur la base du statu quo, position favorable au régime de Saddam Hussein. La résolution 598 du Conseil de sécurité, votée en juillet 1987, appelle ainsi à un cessez-le-feu inconditionnel. Parallèlement, l'Iran mène une politique de confrontation avec l'Arabie saoudite, remettant en cause son statut de protectrice des lieux saints de la Mecque et de Médine. La Syrie, déçue par la nouvelle politique soviétique, tente de paraître le garant de l'ordre public au Liban et ferme les bureaux du groupe Abu Nidal à Damas. Cela suffit pour permettre la reprise du dialogue politique avec Washington, qui envoie Vernon Walters, maintenant ambassadeur à l'ONU, comme émissaire dans la capitale syrienne au début de juillet 1997. L'ambassadeur américain à Damas peut reprendre son fonction et l'Europe des 12 suit le mouvement. La Syrie de Hafez al-Assad collecte ainsi les bénéfices de sa position internationale. Elle est indispensable pour maintenir un minimum d'ordre au Liban et régler le problème des otages, pour réunir une conférence internationale pour mettre fin au conflit israélo-arabe et pour aboutir à une solution dans la guerre Irak-Iran. De fait, l'épreuve de force au Liban avec le Hezbollah et la menace iranienne exercée contre les pays arabes du Golfe conduisent Damas à prendre ses distances avec Téhéran. Le 18 août, l'otage américain, enlevé récemment, le journaliste, réussit à s'échapper et est pris en charge par les Syriens, et le gouvernement américain exprime sa reconnaissance à Damas. Au Liban, le mouvement Hamal se désolidarise de l'Iran, tandis que le Hezbollah organise à Baalbek un meeting géant de 200 000 personnes à l'occasion de la commémoration de la Ashura, le 4 septembre 1987. Le cher Toufaili, qui est chef du Hezbollah, adresse un vibrant hommage à l'imam Khomeini, dirigeant suprême des musulmans. Je cite, « Lorsque l'imam Khomeini parle, toutes les autres voix doivent se taire. Il nous a ordonné de lutter contre l'Amérique et Israël, les Saouds et d'autres, et nous le ferons. » Fin de citation. Quant à Amin Gemayel, il est traité d'agent israélien. En Israël, l'évolution de l'industrie de l'armement reste dépendante de l'aide américaine. Depuis 1983, Israël s'est lancé dans la construction d'un nouvel avion de combat, le Lavi, le Lion, avec cofinancement américain. Initialement, l'avion devait être un modèle à bas coût, destiné à l'appui au sol, mais progressivement, les Israéliens s'orientent vers un appareil de haute technologie capable de multiples missions. Le développement coûte de plus en plus cher. Les Israéliens argumentent que s'ils arrivent à se doter d'une capacité indépendante de production d'avions de dernière génération, les États-Unis ne seront plus en nécessité d'en fournir et seront donc libérés des protestations arabes qui accompagnent chacune des livraisons d'Israël. Comme il faut bâtir tout un système de production de haute technologie, la dérive des coûts est inévitable, prenant une part croissante de l'aide militaire américaine. Le coût unitaire du Lavi dépasse largement celui des avions américains équivalents. 20 millions de dollars au minimum contre 12. Le premier prototype sort à la fin 1986, mais en Israël, le débat fait rage sur la poursuite du programme en raison de la disproportion des moyens engagés. Pour l'opposition, la question est de savoir si Israël est un État qui a un avion de chasse ou si c'est un avion de chasse qui a un État. Les responsables militaires jugent que le Lavi capte trop de ressources au détriment des autres armements. Et les Américains poussent à l'abandon du projet, étant prêts à financer la transition. Finalement, le gouvernement israélien vote par 12 voix contre 11 le 30 août 1987 l'abandon du Lavi. Moshe Arend, son défenseur le plus acharné, démissionne de ses fonctions de ministre sans portefeuille. On a dit que les États-Unis avaient fait pression pour éviter l'émergence d'un appareil concurrent au leur et pour conserver des moyens d'influencer la politique israélienne. C'est douteux. Ils assuraient 40% des coûts qui étaient destinés mécaniquement à croître et l'avion n'était pas concurrentiel sur le marché international. Outre son coût, Israël n'avait pas les moyens d'offrir des conditions de crédit intéressantes et les États-Unis conservaient une capacité de veto sur la vente du fait de l'importance de l'appareillage américain. Quant à la seconde raison, Israël n'a jamais été soumis à de fortes pressions américaines, mais plutôt à des incitations financièrement et militairement intéressantes. La véritable leçon de cette affaire est qu'un petit pays, même doté d'un puissant complexe militaro-industriel, n'a pas les capacités financières de produire un avion de combat de la dernière génération, en raison de la loi tendancielle d'accroissement des coûts de production de ce genre d'appareil. Oui, ce qu'on appelle la loi tendancielle de coûts d'accroissement des productions, c'est en fait le fait que chaque génération d'avions coûte plus cher que la précédente et la croissance est plus importante que celle de la croissance de l'économie mondiale. Autrement dit, le nombre d'avions qu'un pays est capable de se doter diminue régulièrement. D'où vous avez les flottes aériennes de la Seconde Guerre mondiale qui se comptaient par milliers d'appareils, alors qu'aujourd'hui, un État moderne ne peut se doter que quelques centaines ou quelques dizaines d'appareils. Et la loi tendancielle est telle qu'on arrivera en effet à la question de savoir si un État peut encore s'offrir un avion de combat. Ça se réserve, c'est l'affaire du Rafale, hein. En France. L'alignement américain sur la politique israélienne est particulièrement visible en septembre 1987. J'ai un blocage de l'ordinateur. Voilà. L'alignement américain sur la politique israélienne est particulièrement visible en septembre 1987. Le 5 septembre, un raid israélien préventif sur le camp palestinien de Rana El Alway fait plus de 40 morts, le bilan le plus lourd depuis 1982. Au Conseil de sécurité, les Américains s'opposent à une déclaration condamnant le raid. En même temps, le 15 septembre, le gouvernement américain, cédant au groupe de pression pro-israélien, ordonne la fermeture du bureau de l'OLP à Washington, tout en maintenant ouvert celui de New York, puisqu'il est dans le cadre des Nations Unies. Revenons maintenant aux territoires occupés. L'illusion israélo-américaine est de croire qu'une amélioration des conditions socio-économiques des territoires occupés permettrait de maintenir le statu quo. Peres et Laurent Hussein ont entretenu sur ce sujet de grandioses schèmes, naturellement financés par les États-Unis, mais très peu de choses ont effectivement été entreprises sur le terrain. Au contraire, la priorité a été donnée à la lutte contre les institutions tenues par les partisans de l'OLP, autrement dit, un raidissement de la répression sans aucune compensation. Si vous préférez, moins de carottes et plus de bâtons. La présence de l'OLP dans les territoires est d'abord le fait d'un ensemble de mouvements semi-clandestins chargés d'organiser la société palestinienne dans le cadre de l'endurance, soumoud en arabe. Par rapport à l'occupation, il faut d'abord tenir bon, c'est ça que ça veut dire, soumoud, d'abord tenir bon, et interdire le cauchemar d'un nouvel exode palestinien. De même, les composantes de l'OLP constituent autant de partis politiques clandestins, la lutte armée passe après. En dehors des municipalités passées pour la plupart sous le contrôle direct des autorités d'occupation, a émergé tout un groupe de personnalités indépendantes, en particulier à Jérusalem-Est. Elles sont en général recrutées dans les professions libérales et les milieux universitaires. Elles ont passé un contrat implicite avec l'OLP. Sans être affiliées officiellement à une composante de la centrale palestinienne, les personnalités en reconnaissent l'autorité, renforçant ainsi la représentativité à l'extérieur de l'OLP, tout en gardant une grande liberté de parole. Une pétition de ses compagnons de route, adressée à George Shultz, est déposée au consulat américain à la mi-octobre 1987, exprime bien la réalité de l'état des esprits dans les territoires. Je cite. Quand le concept d'amélioration de la vie des Palestiniens sous occupation a été introduit il y a 3 ans, notre peuple a été surpris de constater que le secrétaire d'État des États-Unis pouvait imaginer qu'il puisse exister une occupation libérale. Parce que l'occupation signifie la soumission d'un peuple à un autre peuple par la violence. Aussi, l'occupation ne peut-elle en aucun cas s'accompagner d'une amélioration de nos conditions de vie. Malgré cela, et dès le moment où vous avez commencé à parler de ce sujet, les autorités israéliennes ont recouru à l'escalade dans les mesures de répression contre notre peuple, nos institutions et nos droits fondamentaux à la vie. Et si vous souhaitez avoir des détails de nos épreuves durant les 3 dernières années, vous pouvez les demander au consulat américain à Jérusalem. Fin de citation. L'ensemble de la pétition va dans le sens des résolutions des 18e CNP. Le grand sondage d'opinion... On a vu le sondage d'opinion la dernière fois. Une étude publiée à l'automne 1987, à l'occasion du 20e anniversaire de l'occupation, décrit la bande de Gaza comme une cocotte minute prête à exploser. La majorité de la population se considère comme pro-Fatah et soutient la direction de l'OLP. Les élites acceptent une solution politique permettant l'établissement d'un État palestinien sur l'ensemble des territoires occupés, sur les bases des résolutions 242 et 338. Le mot d'ordre de Soumoud s'est maintenant transformé en affirmation résolue de la personnalité palestinienne. Un Faisal al-Husseini, représentant officieux du Fatah à Jérusalem, considère que l'occupation est un problème essentiellement israélien non tenable sur la durée en raison de la croissance démographique arabe. Comme les rapports de forces internationaux excluent l'expulsion de masse et que la situation d'apartheid ne peut être durable, les Israéliens seront bien obligés de chercher une solution politique pour préserver la nature juive de l'État. Sarin Nusaybe, professeur de philosophie à Beer Zeit, va jusqu'à proposer l'annexion des territoires avec pleine citoyenneté pour les Arabes, ce qui veut dire le retour à l'idée de l'État binational. Le pragmatisme des élites se retrouve dans des contacts pris entre des personnalités du Likoud, dont Moshe Amirav et Ehud Olmert, durant l'été 1987. Ils discutent à Jérusalem avec Faisal al-Husseini et Sarin Nusaybe, qui transmettent à Tunis le contenu des discussions. On arrive ainsi le 26 août à un texte allant beaucoup plus loin que les propositions des travaillistes. Je cite. On reconnaît que 1. Les droits nationaux à l'autodétermination des deux peuples dans ce pays sont inaliénables. 2. L'OLP est le représentant légitime du peuple palestinien et le mandat et l'autorité de négocier avec le gouvernement israélien, alors que d'autre part, l'État d'Israël a le droit légitime d'exister à l'intérieur des frontières sûres et reconnues. Et que 3. Toute tentative visant à aboutir à un règlement excluant le Likoud de l'OLP ne serait qu'échouée. Mais que 4. Les conditions actuelles ne sont pas propices à la conclusion d'un règlement définitif du conflit israélo-palestinien. Mais selon moi, nous acceptons 1. Qu'il y ait 2 étapes séparées des négociations entre l'OLP et le gouvernement israélien, la phase préliminaire devant conduire à l'établissement d'un accord intérimaire et l'étape suivante à un règlement définitif. 2. Les négociations sur l'étape préliminaire pourrait se faire secrètement en Roumanie et en Égypte. L'étape suivante commencerait à être discutée 1 an après l'application de l'accord intérimaire, ce dernier devant durer de 3 à 5 ans. 3. Il est entendu que l'accord intérimaire inclura l'établissement d'une entité palestinienne dans les territoires tenus par Israël depuis 1967, avec une capitale administrative à Jérusalem-Est. Les résidents palestiniens disposeront d'une autonomie. 4. Il est entendu que cette entité adoptera divers attributs nationaux comme une monnaie, un drapeau, un hymne national, une radio, une télévision, le pouvoir d'émettre des cartes d'identité et des documents de voyage. Lorsque le moment sera venu, Israël reconnaîtra l'OLP comme représentant légitime du peuple palestinien et l'OLP reconnaîtra l'État d'Israël. Israël proclamera un gel de toutes ses activités d'implantation durant la première étape des négociations et cessera tout acte de violence contre le peuple palestinien. L'OLP proclamera l'arrêt de tout acte de violence contre Israël et ses citoyens. Fin de citation. Rabin voit dans cela une manœuvre contre l'option jordanienne des travaillistes et fait immédiatement mettre Faisal Husseini sous détention administrative, c'est-à-dire arrestation sans jugement. Shamir dément avoir été tenu au courant et condamne l'initiative d'Amirav qui démissionne du Likoud. Sans avoir à approuver le document, Arafat, Abu Mazen et Abu Jihad prennent la défense de la partie palestinienne accusée par les radicaux de trahison. Là, vous voyez, on est sur les prodromes qui vont conduire à l'accord d'Oslo. L'administration militaire israélienne des territoires occupés, le Shin Bet, chargé de la sécurité, se laisse prendre au piège de leur propagande, traçant un portrait idyllique de la situation dans les territoires en dépit de la montée continue des actes de violence. Les responsables et experts israéliens sont victimes d'une sorte de blocage mental lié au refus d'admettre que les Palestiniens existent en tant qu'acteurs politiques. La vision policière et coercitive de l'antiterrorisme leur interdit de prendre en compte les évolutions de la société palestinienne pour laquelle l'occupation est devenue de plus en plus intolérable. Au début des années 1980, l'organisation des Frères musulmans dans la bande de Gaza a connu une scission des plus radicaux, inspirée par les exemples iraniens et afghans. Il s'agit de faire de la Palestine l'action prioritaire des musulmans. Sous la direction de Fatih el-Shishaki, un mouvement a d'abord pris le nom de l'avant-garde islamique, puis vers 1985, de djihad islamique. L'orientation est activiste, en faveur de la lutte armée, au contraire de l'attentisme des frères musulmans, préoccupés avant tout de bâtir une infrastructure islamique de la société civile. De ce fait, les premiers djihadistes coopèrent avec les groupes clandestins dépendants du Fatah. On a vu apparaître en Palestine un groupe proprement djihadiste s'inspirant des mouvements égyptiens de cette tendance dans les années 1970. La révolution islamique iranienne a eu un grand impact en montrant que la lutte armée au nom de l'islam est possible. Tout en reprenant le slogan des frères musulmans que l'islam est la solution, on y ajoute que le djihad en est l'instrument. Si les cadres ont fait des études supérieures, le groupe recrute ses militants dans la population pauvre, réfugiés ou non réfugiés. Les dissidents des frères musulmans ont été identifiés par les services de sécurité israéliens qui leur ont fourni le grand service de les condamner à quelques années de prison, ce qui leur a permis d'enrôler de nouveaux militants chez les prisonniers issus des diverses composantes de l'OLP. Les prisons israéliennes sont ainsi les viviers des lieux de formation des militants les plus radicaux. Un peu tard, les autorités d'occupation comprennent leur erreur et substituent à la pratique de l'emprisonnement celle de l'expulsion. Les militants du djihad sont prêts au sacrifice. Dans la voie du martyr, ce qui leur permet de lancer des opérations audacieuses contre les forces d'occupation. Ils réussissent ainsi à organiser une évasion spectaculaire de la prison centrale de Gaza, puis l'assassinat du chef de la police militaire israélienne de la bande de Gaza le 2 août 1987, ce qui renforce leur popularité au grand dam des frères musulmans. Le 1er octobre, trois Palestiniens, dont l'un des évadés, sont tués dans un camp de Gaza. Le 6 octobre, un accrochage à l'arme légère fait 4 morts parmi les militants du djihad, dont 2 évadés et 1 dans les rangs israéliens. Les grèves des protestations les jours suivants dans la bande de Gaza se soldent par la mort d'une manifestante tuée par l'armée israélienne. Le reste du mois d'octobre et le mois de novembre sont marqués par diverses manifestations dans la bande de Gaza et dans une moindre mesure en Cisjordanie et à Jérusalem, avec la mort de plusieurs manifestants. Au début de décembre, 2 civils israéliens sont assassinés dans la bande de Gaza. Les responsables israéliens sont persuadés que l'arrestation de quelques meneurs et l'éventuelle expulsion suffira à rétablir l'ordre. Mais à Tunis, Abu Jihad peut affirmer le 12 octobre 1987, je cite, « Gaza est lent à se réveiller, mais lorsque la révolte gronde, il est difficile de l'apaiser. » Le chef palestinien prévoit que le mouvement puisse durer que plusieurs semaines. Dans les milieux dirigeants de l'OLP, on affirme la solidarité entre les islamistes et le Fatah. Je cite « Le courant islamique est un mouvement important, notamment dans la bande de Gaza, mais n'a rien à voir avec l'Iran ou avec les preneurs d'otages au Liban. Face à la répression et les moralités de la politique israélienne, il groupe des gens qui se sont repliés sur les racines de l'islam, mais il est avant tout nationaliste et les différences de vue qui peuvent le distinguer des autres organisations palestiniennes s'estompent dès qu'il s'agit de faire face à l'occupant. Le Fatah a pour politique de soutenir par tous les moyens dont il dispose tous ceux qui veulent résister à Israël. » Si certains responsables israéliens reconnaissent que la majorité des attentats terroristes sont organisés localement et non d'extérieur, ce n'est pas le cas de Rabin qui affirme le 14 octobre 1987 qu'une partie des désordres actuels sont liés à des tentatives lancées de l'étranger en vue de créer une atmosphère d'agitation à l'approche de la visite du secrétaire d'État américain George Shultz. Ce dernier tente de trouver une solution de remplacement à la conférence internationale rejetée par Shamir. Son idée est de profiter du sommet Reagan-Gorbatchev prévu à la fin de l'année pour y inviter le roi Hussein et Shamir en présence du secrétaire général de l'ONU. On pourrait lancer ainsi des négociations directes comprenant des Palestiniens acceptables pour Israël. Le déclin soviétique rend les perspectives héritées de la guerre froide obsolètes. Les États-Unis peuvent maintenant offrir à l'Union soviétique un statut dans la négociation que son affaiblissement rendra sans danger. Reagan approuve le projet qui doit être présenté lors de la visite en Israël du secrétaire d'État. Un ordre de grève générale de protestation est très largement suivi par la population palestinienne. Les notables palestiniens invités à rencontrer le secrétaire d'État refusent la rencontre et s'en tiennent à la représentation de l'OLP. Je cite « L'OLP est notre représentant. Si les États-Unis veulent discuter avec les Palestiniens et recherchent le dialogue, ils connaissent l'adresse et le numéro de téléphone. » Fin de citation. La fermeture du bureau de l'OLP à Washington a particulièrement monté les esprits. Shultz rencontre le 16 octobre Peres et Shamir. Le premier ministre israélien se montre intéressé tout en demandant un délai pour étudier la question. Puis, 2 jours après, il donne son accord de principe. Shultz se rend immédiatement à Londres pour aviser le roi Hussein. Après un jour de réflexion, le monarque lui adresse une réponse négative. Shamir n'ira pas plus loin que la proposition de mesures intérimaires et ne cédera jamais sur le principe de rétrocéder le moins de territoire ou de passer à un statut final. Le secrétaire d'État, découragé, abandonne toute perspective de lancer une initiative diplomatique. Le refus du roi Hussein s'appuie d'abord sur une analyse lucide des intentions israéliennes. La personnalité de Shamir lui est totalement antipathique et les Américains lui paraissent totalement alignés sur les positions du premier ministre israélien. Dans l'immédiat, le monarque consacre toute son énergie à la réunion d'un sommet arabe à Amman qui consacrerait un rapprochement syro-irakien. Dans son ordre du jour, la guerre du Golfe a la priorité sur la question palestinienne et il ne lui est pas possible de se lancer dans une nouvelle confrontation avec Damas. Les pays du Golfe, menacés par l'Iran, mettent tout leur poids dans ce sens. L'Irak a relancé les opérations contre l'infrastructure pétrolière iranienne, en particulier les pétroliers et les occidentaux. États-Unis en tête assure la protection des pétroliers des autres navires du Golfe, neutralisant la menace iranienne contre les monarchies arabes de la péninsule arabique. L'Iran paye maintenant chèrement ses manipulations de l'Iran Gate. On est pratiquement dans une situation de confrontation armée quand les Américains s'engagent à défendre le Koweït face à des attaques iraniennes. Le sommet arabe extraordinaire est inauguré le 8 novembre 1987. Les 21 membres de la Ligue arabe sont représentés. Arafat et Assad échangent même une poignée de main. Les relations entre le chef de l'ALP et le monarque hachémite sont froides. Arafat boycotte un dîner officiel parce qu'on ne lui accorde pas les honneurs dus à un chef d'État. La presse jordanienne publie une liste de plusieurs centaines de personnalités palestiniennes qui auraient proclamé leur allégeance à Amman. La plupart des intéressés adressent immédiatement des démentis. La déclaration finale du sommet, le 11 novembre 1987, met en avant la solidarité arabe dans la question de la guerre du Golfe. Je cite. Les États membres de la Ligue étant engagés par la Charte de la Ligue des États arabes, les traités de défense commune et la Charte de la solidarité arabe, et affirmant leur détermination à protéger la sécurité nationale arabe et à préserver le sol arabe, et les travaux du sommet se déroulant dans une atmosphère d'amitié et de fraternité, le problème du conflit irako-iranien et la situation dans la région du Golfe a été inscrit à la tête de l'ordre du jour. Les dirigeants se sont déclarés préoccupés par la poursuite des conflits et ont réprouvé l'obstination du régime iranien à ne pas arrêter les hostilités, à continuer à user de provocations et de menaces à l'égard des États du Golfe arabe. La conférence a condamné l'Iran pour son occupation des territoires irakiens et les atermoiements qui l'opposent à l'acceptation de la résolution du Conseil de sécurité numéro 598, lui demandant de l'accepter et de l'appliquer intégralement selon l'ordre prescrit dans ses paragraphes opérationnels. Les dirigeants arabes exhortent la communauté internationale à assumer ses responsabilités, à déployer des efforts efficaces et à prendre toutes les mesures utiles pour amener le régime iranien à donner suite à ses appels de paix. La conférence a exprimé sa solidarité avec l'Irak, sa considération pour son acceptation de la résolution du Conseil de sécurité numéro 598 et l'accueil favorable fait à toutes les initiatives de paix. Elle a confirmé sa solidarité avec l'Irak et l'appui qu'elle lui accorde pour la défense de son sol, de ses eaux territoriales et de ses droits légitimes. Les Palestiniens n'ont le droit qu'à un rappel de principe, je cite, « Ayant examiné le conflit arabo-israélien et passé en revue ses développements arabes et internationaux, la conférence a réaffirmé que le problème palestinien était au centre et à la base de ce conflit » et que la paix au Proche-Orient ne saurait être réalisée que dans la mesure où les territoires arabes occupés, notamment Al-Quds, Jérusalem, étaient récupérés. Les droits nationaux imprescriptibles des peuples palestiniens étaient reconnus et le problème palestinien réglé dans tous ses aspects. La conférence a déclaré que le renforcement de la capacité arabe, l'édification de la force arabe, l'ancrage de la solidarité des États arabes et la concrétisation de l'unité de leur position sont autant de facteurs essentiels pour faire face au péril israélien qui pèse sur la nation arabe dans sa totalité et expose son existence et son avenir au danger. Dans le cadre du renforcement des tentatives et des démarches engagées en vue de réaliser une paix juste et durable au Proche-Orient, qui soit conforme à la légalité internationale et aux résolutions de l'ONU et fondée sur la récupération de tous les territoires arabes et palestiniens occupés comme des droits nationaux du peuple arabe palestinien, les dirigeants arabes ont appuyé le projet de conférence internationale de paix sous l'égide de l'ONU et avec la participation de toutes les parties concernées, y compris l'OLP, seul et unique représentant légitime du peuple palestinien sur une base d'égalité et les États membres permanents du Conseil de sécurité, une telle conférence étant l'unique moyen propre à permettre le règlement pacifique, juste et global du conflit arabo-israélien. Désolé pour cette langue de bois diplomatique, mais ça donne le style. Ils ont adressé leur salut et un témoignage de considération au peuple palestinien dans les territoires arabes occupés, rendant hommage à sa lutte, à son courage et à sa résistance, et lui renouvelant leurs engagements à le soutenir et à l'appuyer. Le résultat le plus concret du sommet de Amman est la fin de l'isolement de l'Égypte. La reprise des relations diplomatiques avec le Caire relève désormais de la souveraineté de chaque État arabe et non d'une décision collective. Seule la Libye a décidé de rejeter le communiqué final, considéré comme étant d'inspiration américaine, pour avoir donné la priorité à la question iranienne et accepté le principe d'une conférence internationale. Les responsables israéliens se félicitent de la seconde place accordée à la question palestinienne, mais s'inquiètent du rapprochement en cours entre l'Égypte et les pays arabes. Les analyses des observateurs convergent dans l'idée que la menace iranienne sur les pays du Golfe constitue la priorité majeure des pays arabes et que le dossier palestinien est mis durablement au second plan. C'est ça, là, que les bons analystes, dont moi évidemment, à l'époque, avaient considéré que le sommet de Amman mettait la question palestinienne au second rang. Le 25 novembre, un commando palestinien appartenant au FPLPCG, donc Front de Libération de la Palestine, commandement général d'obédience syrienne, réussit une opération audacieuse. En utilisant un ULM, l'un des membres du commando parvient de nuit à passer les lignes israéliennes et à pénétrer dans une base militaire israélienne en Haute-Galilée. Il fait situer sept blessés chez les soldats israéliens avant d'être abattu. Cette opération est célébrée dans les territoires occupés. Les Israéliens, non sans raison, accusent la Syrie d'avoir permis l'organisation de l'opération, mais ils s'abstiennent de représailles. Alors voilà, en gros, cette année 1987 qui se termine donc dans la grisaille, en quelque sorte, d'une absence de solution politique. Et on va voir la semaine prochaine ce mécanisme qu'on retrouvera en 2011, celui de l'incident qui déclenche tout un processus qui devient totalement incontrôlé. Alors ensuite, rétrospectivement, puisque les historiens sont des champions pour prédire le passé, ils vont découvrir tous les prodromes, tous les signes qu'une explosion allait se produire. Je parle évidemment de la première intifada, et vous vous rendrez compte tout de suite, en analysant les mécanismes de la première intifada, combien en réalité la première intifada annonce l'année 2011. Car ceux qu'on a retrouvés en 2011 se trouvent en 1988. Je contenterai donc de finir la session d'aujourd'hui par une citation d'Edouard Saïd en 1988 qui sonne étrangement aujourd'hui. Peu à peu, l'intifada, le soulèvement dans les territoires occupés, a montré le ridicule de la théorie qui veut que la résistance palestinienne ne soit que terrorisme. Elle a transformé de façon irréversible un nationalisme palestinien mal perçu en un fait précédant la naissance d'un État. Elle a transformé la politique israélienne en ce qu'elle est, un colonialisme en bout de course. Ce que l'intifada a révélé aux Palestiniens, c'est la véritable base politique de tous les mouvements de libération nationale. C'est que ni le coup de feu isolé, ni l'attentat aveugle, même s'ils sont compréhensibles, ne peuvent se comparer à la force morale et mobilisable d'une action humaine, intelligente, courageuse, coordonnée. Un journaliste qui lui demandait comment des hommes et des femmes, des hommes, des femmes, des enfants sans armes faisaient front de façon si naturelle aux troupes israéliennes, l'un des dirigeants du soulèvement fit cette citation, cette réponse: « Il est interdit d'avoir peur. » Ce qu'il voulait dire, c'est qu'un mouvement populaire supprime la peur. C'est un fait. Remettez ça en Tunisie et en Égypte en 2011, c'est parfaitement identique, mais nous le verrons la semaine prochaine. Je vous remercie.